Donc, bienvenue à chacun pour vivre ces fêtes de la miséricorde. Donc, pardon de notre absence à moi et au Père Christophe. Je crois que vous avez prié pour nous hier, donc je vous remercie. Nous avions une audience privée avec le Saint-Père, ce qui n'arrive pas tous les jours. Et donc, c'est pas moi et pas nous, Christophe et moi, c'est la communauté de l'Emmanuel qui avait une audience privée avec le Saint-Père et on nous avait demandé d'y participer. Puisque vous le savez peut-être, ce sanctuaire est confié à l'animation de ce sanctuaire est confiée à la communauté de l'Emmanuel depuis 30 ans maintenant. Et il semblait important qu'on puisse y être présent aussi. Donc on a bien prié pour vous et je voulais commencer par là mon enseignement. C'est-à-dire qu'hier, donc, il y a eu cette rencontre avec le Saint-Père, qui était une rencontre d'encouragement, de confirmation de notre mission particulière aux membres de la communauté de l'Emmanuel. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la communauté de l'Emmanuel, on est une communauté de laïcs essentiellement, hein, des hommes et des femmes qui vivent dans le monde. Donc, en gros, normalement, par exemple, ici, il y a des frères et sœurs de la communauté de l'Emmanuel, mais vous n'arrivez pas à dire qui ils sont. Parce qu'ils ont le même visage que vous. Hein, et ils ont une vie quotidienne qui semble comme la vôtre. Voilà. Mais ils ont reçu l'appel de Dieu, comme vous, à cet appel à la sainteté, à suivre le Christ, à prier longuement, à pouvoir aller à la messe si possible tous les jours, à adorer le Seigneur, comme Marguerite Marie adorait le Seigneur, aussi à évangéliser, à l'appel à l'annonce, au témoignage de notre vie avec le Christ, et à cette compassion pour tous les hommes, mais dans la vie quotidienne, dans le monde. Vous voyez, donc les familles vivent en famille, les prêtres sont en paroisse en général, les consacrés ont un travail. Voilà, on est dans le monde et on est dans, je ne sais plus combien de pays, en tout cas hier il y avait une cinquantaine de pays représentés, ça allait de l'Australie d'un côté au Canada de l'autre, et du Rwanda aux Pays-Bas, voilà. Donc c'était la première fois que la communauté n'était pas seulement reçue dans ses responsables, mais un appel large. Donc on était 500 membres de la communauté de l'Emmanuel et ça m'a beaucoup touché, parce que vous savez que le pape dit... Que le pasteur doit prendre l'odeur de la brebis qu'il porte. Vous connaissez cette parole-là? Il a dit, il a pris l'image du bon pasteur qui connaît ses brebis, et puis il dit, mais normalement, le pasteur, il a l'odeur de la brebis. Hein, voilà. Il y en a peut-être qui travaillent dans le milieu agricole parmi vous, qui ont des bêtes et tout. Donc voilà, il faut prendre l'odeur de la brebis. Et alors, ça m'a touché parce que hier, il a salué les 450 personnes qui étaient là, et tous les enfants. Il a salué tout le monde. Alors qu'il avait déjà une audience avant, qu'il avait un autre truc, il arrivait à 11h, on avait rendez-vous à 11h, il arrivait à 11h30, tout ça. Mais il a pris le temps de saluer tout le monde. À 80 ans, il commence à être crevé. Il a quand même pris le temps de saluer. En fait, je pense qu'il y avait deux aspects. D'abord, pour l'attention à chacun. Vous voyez, moi, je n'ai pas pris le temps de vous saluer chacun, les uns après les autres. Là. Et on est moins de 400. Voilà. D'abord, l'attention à chacun. Et puis, je pense aussi prendre l'odeur de la brebis, c'est-à-dire de prendre conscience qu'est-ce que c'est que la communauté de l'Emmanuel, quoi. De voir qu'il y a toutes les couleurs, il y a toutes les tailles, il y a toutes les formes. Enfin, il y a toujours en général deux jambes, deux bras. Enfin, des fois, pas forcément, parce qu'avec l'âge, on peut y perdre des épreuves de la vie. Mais vous voyez, donc c'était très beau, ça. Ce qui m'a beaucoup touché, c'est un deuxième élément que je voudrais vous partager. Ce sera simple aujourd'hui. Hein. Comme je me suis couché à 2h du matin, vous comprendrez que c'est pour ça que je m'assois. En général, je suis debout, mais... Et hier, en fait, on était le 7 avril, donc le pape nous a accordé une audience le 7 avril. Et le 7 avril, c'est pour nous, le 7 avril 1994, c'était le début du génocide au Rwanda. Et les frères qui ont fondé la communauté de l'Emmanuel au Rwanda ont fait partie des premiers tués au Rwanda. Et ils sont morts le 7 avril à 11h. Et nous, on avait l'audience normalement le 7 avril à 10h. Et 24 heures avant, on nous a dit « Non, 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 ce ne sera pas à 10 heures, ce sera à 11 heures. » Et j'avais devant moi quatre frères du Rwanda, dont beaucoup ont perdu des membres de leur famille, leurs parents, qui étaient très proches de ce couple fondateur, qui s'appelle Cyprien et Daphrose, Rugamba, dont le procès de canonisation a été ouvert, qui sont morts avec leurs six de leurs huit enfants, je crois qu'ils ont. Et vous voyez, donc je me disais « Tiens, pour eux, c'est l'anniversaire du début du génocide » d'une violence extraordinaire. Et 16 ans plus tard, il se retrouve devant le Saint-Père. Une sœur m'a dit, mais vous voyez, en général, ce jour, c'est le jour de la mort dans notre pays. Voilà. je ne sais pas combien de millions de morts, enfin, en peu de temps, en 2 mois. Et elle m'a dit, ben en fait, je sens, il fallait qu'aujourd'hui ce soit un jour de résurrection. Je lui ai dit, mais ça ne peut pas être un jour de résurrection, ça restera un jour de mort. Mais comment il y a une autre perspective, c'est-à-dire cette perspective, et ce clin d'œil du bon Dieu de nous faire cette audience ce jour-là, pour eux, pour ces membres-là, comme pas, ça ne nous dit pas que le 7 avril 1994 est un jour de résurrection, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous pouvons rentrer dans une autre regard, dans une autre espérance. Vous voyez, voilà. Donc on pourrait dire qu'il y a un petit signe de la miséricorde de Dieu pour ces frères et sœurs qui ont tellement perdu. Voilà, donc, et après cette audience, je suis allé prier devant le tombeau de Jean-Paul II, qui était fermé au public, quand même extraordinaire. On est la veille de la miséricorde, c'était fermé au public. Et donc, il y avait tous les Polonais qui étaient passés du côté de la Pietà, ceux qui connaissent Saint-Pierre, il y a la Pietà, après il y a la tombe de Jean-Paul II, Saint-Jean-Paul II, et après il y a la chapelle du Saint-Sacrement. Et donc, tout le monde était là en disant « Mais on ne peut pas rentrer, on ne peut pas rentrer. » Enfin, moi, je n'avais pas remarqué ça. Et puis, nous, il y avait une file pour rentrer à la chapelle du Saint-Sacrement. Et nous, on a dit « Ben non, on ne veut pas rentrer au Saint-Sacrement, on veut tourner là. » Et on s'est retrouvés à une vingtaine à pouvoir être autour du Saint-Père et à prier là. Alors, vous savez, c'est pas la date du 7 avril, c'était le 2 avril, je crois. Mais c'était la veille de la fête de la miséricorde que le Saint-Père est mort. Lui qui a demandé cette fête de la miséricorde. Alors, là-bas, j'ai prié pour vous. Je prie pour tous les pèlerins de Paray et pour tous ceux qui se sont consacrés au Sacré-Cœur. Vous voyez, donc je priais pour vous devant le Saint-Père. Je me suis dit, ben voilà, je ne suis pas à Paray, mais je ne suis pas loin de la miséricorde, là. Et donc, pour que les grâces, ça revienne jusqu'à vous. Et voilà, de demander vraiment qu'on puisse, comme dit Paul VI, aimer avec le cœur de Jésus. Et voilà ce que je voulais vous partager. Donc, c'était tout simple. Après, je suis allé prier sur la tombe de Pierre, devant le tombeau de Saint-Pierre. Pour prier pour l'Église, pour chacun de nous qui sommes membres de l'Église, hein. Vous êtes chacun d'entre vous une pierre de l'Église à la suite de Saint-Pierre, qu'on puisse entendre cet appel de Pierre aussi à continuer notre chemin, notamment dans la lumière de Pâques, hein. Parce qu'on voit Saint-Pierre avant Pâques, mais d'une certaine manière, si je peux vous donner un conseil, c'est lisez maintenant les Actes des Apôtres. Alors on va les entendre dans les lectures de la messe, mais reprenez, parce que les Actes des Apôtres, c'est nos actes à nous, quoi. On est invité à ressusciter avec le Christ et maintenant on est invité à rentrer là. Donc, voilà, donc Saint Jean-Paul II, dans cette date, vous venez peut-être, je ne sais pas où vous étiez ce soir-là, toute l'église s'est réunie en prière, quels que soient les lieux, dans leur maison ou dans les églises. Moi, je me souviens, j'étais à Paris et le glas sonnait, bon, bon, et on voyait tous les chrétiens qui se rassemblaient. C'est assez mystérieux comme soirée parce que ce 5 avril, c'était le 5 avril ? Le 2 avril. Pourtant, ça, j'aurais dit le 5, moi, mais. Et en tout cas, ce que je me souviens, c'est que ce n'est pas un rendez-vous programmé. Vous voyez, c'est assez beau, ça. C'est non, on va à la messe le dimanche, on a un programme. Il y avait zéro programme. Et le glas de Notre-Dame, le bourdon de Notre-Dame a sonné. Et tout le monde, tous les chrétiens se sont rassemblés. Et plein de gens qui n'étaient pas chrétiens se sont rassemblés dans Notre-Dame pour prier pour le Saint-Père. Tout le monde s'est rassemblé sur la place Saint-Pierre. C'est fort, vous voyez, parce que dans notre vie chrétienne, on est un peu réglé, il faut prier, il faut faire ci, il faut faire ça. Et là, il y a l'imprévu de Dieu. Est-ce qu'on est disponible? Est-ce qu'on est disponible à cet imprévu de Dieu qui nous dit « Maintenant, il faut que tu te mettes à prier, mon frère. » Voyez. Alors, c'est un peu de ça que je voudrais vous parler aujourd'hui, dans mon enseignement, sur la miséricorde. Je voudrais vous parler de la prière et la miséricorde, en fait. Vous voyez. Comment... hier soir, vous avez vécu une soirée miséricorde. Il y a toute cette dynamique d'accueillir la miséricorde de Dieu pour nous et de prendre conscience. Et ça, c'est très long. Et je vous le souhaite. C'est le chemin de Thomas qui est long. De prendre conscience que le Seigneur vient vous faire miséricorde. Vous voyez, peut-être que vous n'êtes pas vraiment ressuscité avec le Christ encore. Vous n'êtes pas encore dans la joie pascale. Bien, vous avez une miséricorde de Dieu qui vous dit « Regarde Thomas, lui non plus, il n'est pas rentré dans la miséricorde le premier jour. Ça lui a pris du temps. » Donc si vous dites « Ah, moi, ça prend du temps, mon père, ça fait déjà 2 jours que je suis là, et puis... » Eh bien, Thomas, ça a pris du temps. Voilà. Mais donc, soyez miséricordieux avec vous-même, et en même temps, voyez comment le Seigneur vient vous faire miséricorde. Mais je voudrais vous parler la miséricorde de Dieu dans notre vie de prière, parce que, donc il y a deux attitudes, l'attitude de recevoir la miséricorde, voilà, et puis l'attitude de pouvoir entrer nous-mêmes dans la miséricorde. Si vous regardez bien, je ne sais pas si c'est moi qui vais prêcher tout à l'heure, donc mon homilie est prête, mais donc je vais vous glisser des petits points, parce que ça se trouve, je ne ressortirai pas ça tout à l'heure, si on ne me demande pas de prêcher. C'est qu'en fait, si vous regardez bien, dans la première partie de l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jésus qui vient faire miséricorde à ses apôtres, et puis dans la deuxième partie, il vient faire miséricorde à Thomas. Mais entre les deux, d'une certaine manière, il y a les apôtres qui ont fait miséricorde à Thomas. Eux, ils croient, lui, il ne croit pas, et il est quand même là. Ils n'ont pas dit, oh, dehors, hein. Tant que tu ne crois pas, tu ne rentres pas avec nous. Hein. Vous voyez, c'est un des apôtres, et il n'en est pas au même niveau que les autres. Et les apôtres, d'une certaine manière, font miséricorde à Thomas, qui n'est pas encore rentré dans la foi, qui n'est pas encore rentré dans la joie, et ils l'accueillent, et allez, tu vois, je te promets, il est ressuscité, et tout ça. Et il n'y croit pas, quoi. Si je ne mets pas mes mains, si je ne mets pas mon doigt, je ne croirai pas. Et pourtant, ben voilà, les apôtres, ben ils acceptent le chemin de Thomas. Et il l'accueille dans son chemin. Vous voyez, et donc on voit d'une certaine manière cette miséricorde qui s'exprime juste dans 8 jours plus tard. Il a fallu 8 jours, on ne sait pas ce qui s'est passé pendant 8 jours, mais Thomas était là et au fond, il y a eu ce temps de patience avec Thomas. Donc nous aussi, nous sommes invités à exercer la miséricorde et sûrement, et ça c'est peut-être une clé pour moi, mais donc, je voulais le garder pour l'homélie, mais comme on m'a dit ce matin, je ne sais pas si c'est toi qui prêches. Eh bien, en fait, je pense que c'est un peu dans cette parole centrale de Thomas, justement. Si je ne mets pas mes mains dans les plaies du Seigneur, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Comment est-ce qu'on peut permettre à ceux qui n'ont pas la foi de mettre les mains dans les plaies de Jésus et mettre le doigt dans les mains de Jésus et les plaies dans la main dans son côté? C'est quoi ce côté? C'est quoi dans ces blessures où on trouve la guérison? Où est-ce que c'est, ce lieu-là? Et voilà. Réfléchir entre nous, où est ce lieu des blessures de Jésus aujourd'hui, où les gens vont pour dire, ah, je crois, mon Seigneur et mon Dieu. Voilà, donc vous pourrez dormir tout à l'heure si vous voyez que c'est moi qui prêche. Vous avez l'essentiel de ce que je voudrais dire. Mais donc, comment nous-mêmes entrer dans ce chemin de la miséricorde? Alors, il y a les œuvres de miséricorde, on a beaucoup parlé l'année de la miséricorde, mais je vais avancer un peu, donc je ne vais pas tout déployer, je ne vais pas déployer ces œuvres de la miséricorde. Les œuvres corporelles notamment, mais j'en évoquais plutôt les œuvres spirituelles sur la dimension de la prière. Vous rappelez que vous êtes acteur, vous n'êtes pas seulement spectateur. J'espère que pendant 7 jours, vous êtes un peu acteur de votre chemin, vous n'êtes pas seulement assis sur une chaise en disant « Bon, j'attends de voir ce qui va se passer. » Et voilà. Vous êtes acteur, vous êtes invité, nous sommes invités aujourd'hui à exercer la miséricorde, à demander la miséricorde. Vous voyez, et on le fait tout le temps en fait. On le fait dans la messe, on le fait dans la vie de prière, et on va le faire aujourd'hui particulièrement, et c'est là-dessus que je voudrais insister sur un mode de prière, qui est le chapelet de la miséricorde. Je ne vais pas insister sur le chapelet de la miséricorde, je vais insister sur « Par sa douloureuse passion, prends pitié de nous et du monde entier ». Je vais insister sur le fait de rabâcher. On rabâche, alors que Jésus nous dit de ne pas rabâcher. Je vais essayer de comprendre ça. Mais un petit mot d'abord en introduction sur la messe. Vous voyez, dans la messe, nous sommes acteurs dans la messe. Au début, on vient, on demande pardon pour nos péchés, « Seigneur, prends pitié de nous », on reconnaît devant tout le monde qu'on est pécheur. Et puis, pas à pas, quand on arrive autour de l'Eucharistie, il y a ce temps où on intercède. Alors, c'est le prêtre qui parle, mais il parle au nom du peuple. Vous voyez, une fois que Jésus est présent dans son corps et son sang, qu'est-ce qu'on fait? On prie. Il y a des choses que vous m'aurez entendu plein de fois le dire, mais je le répète quand même. Vous savez que quand le prêtre, dans la messe, il dit « Prions le Seigneur », vous savez ce que vous devez faire? Vous ne devez pas chercher votre pièce pour la quête, hein. Vous devez prier. C'est tout simple. Hein. En fait, il y a juste à faire ce qu'on est en train de dire. Prions le Seigneur, il faut prier. Et c'est pas... T'as vu comment il est habillé, celui-là? Quand même. Vous voyez? Non, prions le Seigneur. Bah, est-ce qu'on prie? Et pourquoi je veux prier? Qu'est-ce que je veux prier? Ah, mon père, je ne sais pas prier. Bon, bah, qu'est-ce que je veux dire à Dieu? C'est ça, prier. Bah, Seigneur, aujourd'hui, je voudrais te prier vraiment pour notre paroisse, parce qu'on est tous là, parrainemonial. Il faudrait que tu mettes le feu dans notre cœur, qu'on soit embrasé, vraiment, que ça brûle, la bourboule, quoi. Que ça aille jusqu'au haut, au mont du... Jusqu'au puits de Sancy, là. Que tous ceux qui montent là-haut voient qu'en bas, il y a un feu ardent. Ils disent, oh là là, mais en fait, on est monté, mais c'est là-bas qu'il fallait y aller. Voilà, vous voyez, Seigneur, donne-nous ça, ce feu les uns pour les autres. Vous voyez, qu'est-ce que vous voulez présenter aujourd'hui? Bah, Seigneur, je te présente... je viens de recevoir un coup de fil là, oh là là, ben, je te prie pour cette dame, vous voyez, prions le Seigneur. C'est très simple, mais on n'en a pas beaucoup de conscience, et je me rends compte que dans notre culture, on est habitué à arriver à s'asseoir et à repartir, quoi. Et en fait, il y a un gros boulot à faire. Et voilà, donc de se porter, il y a peut-être des petits exercices pratiques pour se dire, tiens, quand vous arrivez à la messe et que vous voyez déjà quelqu'un assis à droite, à gauche, bonjour madame, on se connaît bien, alors bonjour Monique, pourquoi tu veux prier aujourd'hui, quoi? Ah, ben, je vais prier avec toi pour ça. Et toi, tu pries pourquoi? Vous voyez, qu'on s'entraîne. Petit geste comme ça. On se donne la paix, on pourrait se dire plus que la paix, hein. Voilà, donc comment est-ce qu'on va intercéder? Et après la consécration, justement, quand il y a le pain et le vin, eh bien, on entend le prêtre qui dit, mais Seigneur, nous te prions que l'Esprit Saint vienne sur ton Église. Vous voyez, on va entendre dans l'Évangile, recevez l'Esprit Saint. Ben, nous, aujourd'hui, Seigneur, on te demande l'Esprit Saint sur toute ton Église, sur notre Église, sur nous, mais plus largement, sur le Saint-Père, là, qui a 80 ans, continue à saluer 500 personnes, main dans la main. Pauvre vieux. Ouais, moi, honnêtement, c'est pas facile d'être pape, hein. Et tu vas là, tu fais ci, tu fais ça. Oh là là, il faut être obéissant. Hein. Alors les amis, l'obéissance, le pape, je crois que c'est premier à obéir. Et vous voyez, bah, Seigneur, on va te prier pour le Saint-Père, pour qu'il continue à donner ce feu. Là, demain, il va nous donner un document sur la sainteté. Voilà. Seigneur, on te prie pour qu'on soit renouvelé la sainteté. Puis après, on va prier pour les vivants, on va prier pour l'Église, on va prier pour le monde. Dans la troisième prière eucharistique, j'aime beaucoup cette parole sur la paix. Voilà, Seigneur, on te demande la paix pour le monde. Répands sur ton Église et la paix. Comme quoi, ça vient, c'est marrant, quand on célèbre la messe, on sait tout par cœur, ça sort comme ça, et quand on est avant, ça sort pas. Voilà, et après on va prier pour nos défunts. Mais vous avez mission d'intercéder. C'est pas seulement le prêtre, c'est vous. Et là, vous devez dire au Seigneur, mais Seigneur, moi je te prie pour un tel, pour un tel, pour un tel. D'accord ? Donc cette dimension, non seulement d'accueillir la miséricorde, Seigneur, je reconnais que je suis pécheur et j'ai besoin d'accueillir la miséricorde, mais cette dimension active de votre part, pendant la messe, Seigneur, j'intercède. Tu m'invites à prier et intercéder. Alors vous me direz, ah oui, ça se voit moins que quand je donne une pièce à un pauvre qui est à la sortie de l'église. Oui, mais peut-être que vous aurez des surprises quand vous arriverez au ciel. Ah ben en fait, ma prière, je pensais que ça servait à rien du tout. Ben en fait, ça portait du fruit. Petite remarque, petit glissement là, chers grands-pères et grands-mères, ne priez pas seulement pour vos enfants et vos petits-enfants, s'il vous plaît. Il y a une parole dans l'Écriture qui dit « élargis les piquets de ta tente ». Ben, élargissez les piquets de votre tente. Voyez plus loin, quoi. Voyez. Alors les consacrés ou les célibataires peut-être sont un signe pour nous là-dessus, mais on prie plus largement, quoi. Priez plus largement, le Seigneur vous demande plus. Donc je vous invite aujourd'hui, pas de chance, vous veniez à Paris pour être cool, dans la miséricorde de Dieu, et le prêtre vous dit, prie plus, ah mince, oh là là, je me suis chopé une minute de prière de plus pour élargir les piquets de ma tente. Vous voyez, Seigneur va nous invite, il vous place là-dedans, c'est votre mission, hein. On est acteur. Il dit, ah Seigneur, ça va pas bien le monde, bah priez pour le monde. Bon, deuxième lieu de prière, moyen de prière, ce sont les psaumes. J'avais un désir qui ne s'est pas fait, puisqu'il y a un discernement, on s'est dit que c'est un peu trop tôt, tout ça. En fait, j'aurais voulu que cette nuit, pendant la nuit de la miséricorde, on intercède tous. Et comme je n'étais pas là, c'est difficile de demander quelque chose quand on n'est pas là. Parce qu'après, il dit, bah, c'est bien, mais toi, tu n'es pas là pour le faire. J'aurais voulu qu'on se relaye toute la nuit, par demi-heure, et qu'on prie le psautier. Psaume par psaume. La première demi-heure, il y aurait 10 psaumes de lu, et puis une deuxième demi-heure, après un temps de silence, tout ça. Puis on alterne. Et en fait, tous ensemble, à la fin de la nuit, on s'est dit, bah, en fait, à nous tous, on a prié le psautier. Les 150 psaumes. Et voilà, c'est une prière d'intercession. Les moines prient les psaumes. Les prêtres prient les psaumes dans les offices. Tous ceux qui le veulent, vous pouvez prier les psaumes. Vous voyez, bah, y a des moments où on prie des psaumes de joie, et puis il y a des moments où il y a des psaumes d'intercession. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ta miséricorde, dans ton grand amour, pardonne mes péchés. Et quand on dit ce psaume, moi j'ai bien aimé une fois un frère qui disait, bah c'est marrant, il y a des fois je suis vraiment dans la joie, et quand je prie mon office, j'ai « prends pitié de moi, je suis un pécheur ». Je dis « mais Seigneur, je voulais te dire « merci Seigneur, louange à toi ». Et bien tu me donnes à lire le psaume sur « prends pitié de moi ». Pourquoi ? Bah peut-être parce qu'il ne faut pas que je dise ce psaume pour moi, mais pour un frère qui est en train de reconnaître son péché, et Seigneur pour qu'il aide à rentrer dans cette miséricorde. Puis il y a des jours ça ne va pas du tout. Je suis fatigué. Et là, j'ai un psaume. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Alléluia, alléluia, alléluia. Moi, je suis fatigué, Seigneur. Ben oui, mais il faudrait que tu te réjouisses avec tout le monde, parce qu'il y a des merveilles qui se font, vous voyez ? Et donc, les psaumes nous décentrent de nous-mêmes et nous conduisent à porter des choses qui ne sont pas les nôtres. Dans mon angoisse, je criais vers le Seigneur. Ah ben, tiens, Seigneur, je te prie pour tous ceux qui sont angoissés. Et du coup, on va faire attention aux paroles qu'on va dire. Qu'est-ce qu'il y a dans ces psaumes ? Qu'est-ce qu'il y a dans les paroles ? Vous savez qu'à la messe, quand on entend le psaume, normalement, on est censé répondre. Alors, soit on répond. Le psaume, c'est la réponse à la première lecture. Donc, soit vous le priez en lisant avec tout le monde, soit vous entendez quelqu'un chanter et vous prenez un refrain qui est votre réponse. J'entends, rendez grâce au Seigneur, au mon Dieu éternel, aime son amour, rendez grâce au Seigneur, le Seigneur des Seigneurs. Et vous prenez un refrain, alléluia, 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 pour dire, je suis d'accord avec ça. J'en fais ma prière. Vous voyez, nous sommes acteurs dans notre vocation à la prière. Troisième lieu, donc je ne déploie pas parce que mon sujet à moi, c'était la prière du cœur. Troisième lieu, c'est la prière du cœur. La prière du cœur, elle a plusieurs noms. C'est la prière de Jésus, c'est la prière du pèlerin russe, c'est la prière la philokalie, on prie avec le cœur, voilà, ça dénonce plus. Et c'est une prière toute simple, et c'est celle que Jésus demande dans le chapelet de la miséricorde. C'est ces moments où on prie des paroles courtes, des prières toutes courtes, toutes simples, qui sont, par exemple, par sa douloureuse passion, prends pitié de moi et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prends pitié de moi et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prends pitié de moi et du monde entier. Alors, je vais insister un peu sur la Bourboule parce que le groupe est grand. Entre Paray et la Bourboule, il y a une abbaye qui s'appelle l'abbaye de Ceffonds. Et à l'abbaye de Ceffonds, il y a un moine qui s'appelle le père Jérôme et qui a écrit pas mal, qui a renouvelé pas mal l'abbaye, justement, dans sa fidélité à la prière. C'était très beau. Peut-être pour ceux qui ont dans des paroisses où c'est plus compliqué. Eh bien, lui, il dit, à un moment, à l'abbaye de Ceffonds, les moines étaient plus habitués d'aller visiter les gens, enfin d'aller à la rencontre des gens que de prier dans la chapelle. Et lui, il a tenu bon la fidélité à la prière et au silence. Et 20 ans plus tard, ils sont 90 moines, ceux qui repartent vers là-bas, faites une pause, regardez, c'est très beau. Et sur cette prière du cœur, il dit une parole que je voudrais vous donner, où il dit... C'est pas sur la première page que je voulais dire ça. Parce que pour l'instant, vous savez, dans mon topo, j'ai fait 3 pages, j'en suis là. Hein. Ça va, donc vous êtes prêts. Hein. Si on est en retard à la messe, c'est pas grave. Alors, le père Jérôme dit cette parole. Vous connaissez la pratique des oraisons jaculatoires. Donc, c'est les paroles qui jaillissent comme ça. Les oraisons, les prières jaculatoires qui jaillissent. Merci Seigneur, louange à toi. Vous connaissez ça, dit-il. Il faut 5 minutes pour l'expliquer. Donc, je vais vous prendre 5 minutes pour l'expliquer. Mais dit, après, vous n'y arriverez à rien si vous n'avez pas un maître pour vous enseigner durant des années, inlassablement, ce que vous croyez avoir appris en 5 minutes. Donc vous allez me dire, ben, mon père, à quoi ça sert que vous nous parlez de ça, alors qu'on n'aura peut-être pas de maître pendant 15 ans qui vont nous aider à apprendre ça. Donc c'est très simple la prière du cœur, en théorie, et en pratique c'est hyper compliqué. Donc je vous le donne, parce que c'est, voilà... Ça veut dire que si vous le retenez, mais qu'après vous dites « Ah, ça marche pas, j'y arrive pas », c'est pas grave. Dites-vous, ben, en fait, il faut du temps. Vous voyez ? Mais cette parole, cette prière, dont on a un signe particulier dans le chapelet de la miséricorde, eh bien, en fait, il y a une grâce très profonde dans cette prière du cœur. Et pour introduire à ça, je voulais vous réfléchir avec vous sur 2 textes. Un qui vient nous dire mais pourquoi, à quoi ça sert, et l'autre qui vient nous dire mais en fait il faut le faire. Enfin, pour vous dire, des fois on peut avoir l'impression qu'il y a des contradictions dans l'écriture. La prière du cœur, donc je vous ai dit, hein, donc ça peut être le chapelet de la miséricorde, ça peut être simplement Jésus, fils du Dieu sauveur, prends pitié de moi pécheur. Ça, c'est les orientaux, ils disent ça. Jésus, prends pitié de moi pécheur. Jésus, fils du Dieu vivant, fils de David, aie pitié de moi pécheur. Il y a plusieurs formules, voilà, c'est pas grave. On s'en fout de la formule. Prenez la formule qui vous va. D'accord ? Puis ensuite, ça peut se réduire. C'est plus Jésus, fils du Dieu sauveur, prends pitié de moi, pécheur. C'est Jésus, prends pitié de moi, pécheur. Ou c'est simplement Jésus. Ou en ce moment, ça pourrait être Alléluia. 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 Est-ce que ce matin, quand vous êtes réveillé, vous êtes dans la même joie de Pâques que la semaine dernière ? Parce que cette semaine, c'est une joie de Pâques où il n'y a pas des œufs dans le parc. Donc ça permet de vérifier. Est-ce que ma joie de Pâques, c'est de me dire « Ouh, il y a des chocolats dans le jardin ?» Ou est-ce que c'est une joie de Pâques de me dire « En fait, c'est plus que les chocolats qui me réjouissent, en fait. » Alléluia. Alléluia. Pendant une semaine, vous allez chanter « Alléluia ». Nous, on a chanté « Alléluia » toute la semaine. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Eh bien, ah, quelle joie, Seigneur, de chanter « Alléluia ». Et cette prière, ce simple mot de l'Alléluia peut habiter mon cœur et me nourrir. Alors, deux textes pour nous aider à comprendre cette parole. D'abord, un texte qui pourrait nous dire « ça sert à rien ». Voilà, je vais essayer de prendre des oppositions. On va faire du « opposition », « la prière du cœur, ça sert à rien », on va faire un exercice de saint Thomas. A priori, la prière du cœur, ça sert à rien, puisque Jésus dit lui-même « ne rabâchez pas comme les païens ». Donc si Jésus dit « ne rabâchez pas comme les païens », pourquoi dire 50 fois « par sa douloureuse passion, prends pitié de nous et du monde entier, par sa douloureuse passion, prends pitié de nous et du monde entier ». On rabâche, mon père, la prière, on rabâche. Ou alors on dit « mon père, c'est pareil pour le chapelet ». On en plaire, le chapelet, on rabâche comme des païens. Donc ça ne sert à rien. Arrêtons. Mais ce qui est marrant, c'est que ça fait des siècles que les frères, les chrétiens, les moines prient le chapelet comme ça tout le temps. Sont-ils en opposition avec la parole de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Il semble que oui, dirait saint Thomas. Mais cet contrat, dirait saint Thomas, saint Paul nous dit, priez sans cesse. Comment on va prier sans cesse? Alors on rabâche pas, mais on prie sans cesse. Comment est-ce qu'on va prier sans cesse? C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on invente tout le temps une prière différente à chaque moment du jour et de la nuit. C'est bien, mais moi, mon intelligence, au bout d'un moment, elle freine. On dit, bah c'est bon, t'as déjà dit 150 psaumes, il te reste encore 10 heures dans la journée, comment tu vas prier sans cesse? C'est compliqué. Alors, on va revoir ça. Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire quand Jésus nous dit « ne rabâchez pas comme les païens » C'est intéressant de lire ce texte, bien sûr, vous savez, c'est en Matthieu chapitre 6. 6-7, pardon. Mais justement, ce texte qu'on entend le mercredi descendre, justement, eh bien, il faut le remettre dans son contexte. Ça ne sert à rien de reprendre simplement un verset. « Quand vous priez, dit Jésus, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment pour faire leurs prières à se camper dans les synagogues et les carrefours afin qu'on les voie. En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. » Donc d'abord, une autre remarque, il n'y a pas seulement de ne pas rabâcher comme les païens, Jésus dit « ne soyez pas hypocrites ». Ah mon père, moi je ne viens plus à la messe parce que je me sens complètement hypocrite. Alors je ne viens plus du tout à la messe. Comme ça on ne me voit pas, je me sens, oui. Bon, d'accord, tu te sens un peu hypocrite, mais peut-être que Jésus nous dit aussi qu'il faut sanctifier le jour du Seigneur et que ça vaut le coup d'y aller quand même. Le mieux, ça ne veut pas dire que parce que vous vous sentez hypocrite, il ne faut pas y aller. Hein. D'accord ? Eh bien, venez et convertissez-vous à la messe. Voilà. Au lieu d'être hypocrite, priez. Voilà. Mais inversement, c'est un bon appel de dire, ben, est-ce que je suis dans l'hypocrisie, quoi ? Travaillons notre hypocrisie, c'est un premier point. Deuxième point, pour toi, en vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense, pour toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Prie ton Père qui est là dans le secret. Donc voilà un lieu qui va nous aider à prendre cette prière du cœur. Donc ferme la porte de ta chambre, retrouve-toi dans le salon. Alors si la chambre ça peut être derrière l'arbre là-bas, ça peut être sur le banc là-bas, ça peut être où vous voulez. Prie ton Père qui est là dans le secret. Et au fond, je vais me remettre devant le Père. Et après, je vais me remettre devant Dieu. Et c'est là que Jésus dit, ton Père qui te voit dans le secret le revaudra. Dans tes prières, ne rabâche pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'en parlant beaucoup, ils se feront mieux écouter. N'allez pas faire comme eux, car votre Père sait bien ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Et donc, quel est le contenu de ma prière? Quand Jésus dit « ne rabâchez pas comme les païens », il parle de se faire écouter par le bon Dieu. Est-ce que le sens même de la prière, c'est seulement de se faire écouter par le bon Dieu? Bon Seigneur, j'ai un petit fils, il passe son bac dans 3 mois. A priori, c'est mal barré, hein, parce que là, quand j'ai vu, les parents m'ont donné les résultats, ça ne marche pas. Donc, je vais rabâcher quand même. Seigneur, t'as vu mon petit-fils. Alors, notamment, vous remarquez quand même que c'est intéressant, parce que en disant ça, je repense à l'évangile où Jésus se dit, vous vous souvenez de cette femme qui n'arrête pas de taper à la porte en disant, mon voisin est arrivé, Mon voisin est là, donne-moi à manger pour lui. Et à un moment, il dit quoi, Jésus? Il dit, en fait, il va céder parce qu'il en a marre. S'il ne cède pas par charité, il va céder parce qu'il dit, oh là là, faites la terre. Mais la seule manière de la faire taire, c'est que tu l'exauces, Seigneur. Donc, d'une certaine manière, on a l'impression d'avoir un contre-exemple de ne pas rabâcher comme les païens. Mais voyez, il me semble que là, en fait, on rentre dans une dimension sur la prière. Et justement, Jésus va dire après comment on prie. Eh bien, le Père sait bien ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Donc, quand je viens à la prière, quand Jésus dit « ne rabâchez pas », ce n'est pas justement pour insister seulement sur ce que je veux. C'est ça que je veux, Seigneur, c'est ça que je veux. Je viens pour vivre une rencontre avec le Seigneur. Je viens me mettre devant le Père qui est là dans le secret. Et donc, cette prière du cœur, elle n'est pas là d'abord pour ruminer une demande, elle est là pour se mettre face à Dieu. Vous voyez ? Quand je vais dire « Jésus, prends pitié de moi, pécheur », je me mets devant Jésus. Quand je dis « Je vous salue Marie », vous voyez, avec justement, l'Église nous invite à méditer les mystères du rosaire, et bien je contemple aujourd'hui Jésus ressuscité qui apparaît à ses apôtres. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Ah. En fait, Marie, aide-moi à me mettre devant ce Jésus, le fruit de tes entrailles, qui est béni. Et Jésus ressuscité qui apparaît à ses apôtres, le fruit de tes entrailles est béni. Et je contemple Jésus. Vous voyez ? La prière, c'est d'abord une rencontre. Le pape François, dans la dimension sur la foi, a insisté plein de fois, plus de 14 fois dans son document, la foi comme une rencontre personnelle avec Jésus. Seigneur, je viens te rencontrer. Je veux te rencontrer. Je ne te connais pas, je veux te rencontrer. Donc, cette attitude de la prière, ne rabâchez pas comme les païens, c'est d'abord de se mettre face à Dieu et de se dire que le Seigneur sait déjà ce qu'il est bon. Vous voyez ? Et je rentre dans l'attitude de la prière, et donc, quand vous priez, dites « Père, Père, que ton nom soit sanctifié. » Et vous avez le contenu de la prière du Notre Père, que nous connaissons. Voyez, et nous savons que nous, d'une certaine manière, on peut, cette prière-là, on peut avoir deux attitudes. Soit je la rabâche, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, ne soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous aussi à ceux qui nous ont offensés, ne soumets pas à la tentation, délivre-nous du mal. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté. Bon, très bien. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et c'est pas pareil. Donc l'objectif, c'est pas de dire il faut que j'en dise 10 dans la journée. C'est que je me mette face à Dieu et que et ça me conduit dans ce cœur à cœur. Et d'une certaine manière, on pourrait s'arrêter juste à Père. Jésus, dans l'agonie, il ne dit pas grand-chose. On nous dit d'ailleurs qu'il rabâche, lui aussi. Il partit et il fit la même prière. Il refit la même prière. « Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi. » Et ça dure une heure, cette prière-là. « Non pas ma volonté, mais ta volonté. » « Non pas ma volonté, mais ta volonté. » « Non pas ma volonté, mais ta volonté. » « Non pas ma volonté, mais ta volonté. » Je ne pense pas qu'il priait comme ça. Il n'y a pas de jugement. Parce qu'il y a une éducation aussi à cette prière-là. Mais donc, voyez, comment est-ce qu'on rentre dans cette prière du cœur ? Voilà. Prière où, justement, je vais y mettre mon cœur. C'est ça, la prière du cœur. D'accord ? Donc, Jésus nous donne sa prière, et on voit qu'on pourrait rabâcher cette prière-là. Et donc, pour ne pas rabâcher, je pense qu'il faut se mettre, justement, dans cette prière dans le secret. Il n'y a pas forcément besoin de parler beaucoup. Et entrer dans la demeure intérieure, là où est le Père. Entrer dans un cœur à cœur, en fait. Et profondément, le chapelet peut nous faire entrer dans ce cœur à cœur-là. Quand je prie le chapelet, quand j'enchaîne les « Je vous salue », pas à pas, justement parce que c'est pas l'objectif d'arriver au bout, mais même si je vous dis très, très clairement que, comme moi, je me suis engagé auprès de la Vierge Marie à donner un chapelet par jour, il y a certains soirs, quand il est minuit et demi, que j'ai pas fait mon chapelet, j'avance un peu en me disant « Ben voilà, je tiens mon engagement et j'ai hâte d'aller me coucher ». Mais donc voilà, mais certains moments, l'enjeu c'est quand même que je puisse, à travers ces mystères, voyez, rentrer dans cette paix intérieure. Voilà. Donc, ne rabâchez pas comme les païens. Jésus lui-même, on peut avoir l'impression qu'il le fait de temps en temps, et en répétant les mêmes paroles. Mais donc, l'attitude n'est pas dans le fait de ne pas répéter, l'attitude est en fait dans la manière de vivre l'intériorité de cette parole. Voyez, et de se dire, mais en fait, Seigneur, tu sais déjà mon problème pour mon petit-fils et son bac. Donc, Seigneur, je viens à ta rencontre et je t'aime. Et dans ma prière, je te présente clairement mon petit-fils. Et des fois, je te le dis, tu te souviens, mon petit-fils? Je ne vais pas le répéter toute la journée, mais je vais juste savoir que tu sais bien, hein, Seigneur. Voilà. Et puis, comme le Père, il m'a demandé de voir plus que mes petits-enfants, bah, tu vois le Père, le Pape aussi, parce qu'il a du mal à marcher quand même, là. Il ne prend pas sa béquille, mais il pourrait en prendre, il aurait le droit quand même. Alors, deuxième parole, qui va dans le sens inverse, c'est prier sans cesse. Prier sans cesse. C'est par 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Et alors là, on retrouve un autre texte. Le texte, pareil, il est plus large. C'est pas prier sans cesse, c'est rester toujours joyeux, prier sans cesse. En toute condition, soyez dans l'action de grâce. C'est la volonté de Dieu pour vous dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit. Ne dépréciez pas le don des prophéties, mais vérifiez tout. Ce qui est bon, retenez-le. Gardez-vous de toute espèce de mal. Très intéressant ce texte. Donc, c'est pas seulement prier qu'il faut faire sans cesse, c'est aussi être dans la joie sans cesse, être dans l'action de grâce sans cesse, et puis d'être dans l'Esprit Saint sans cesse. Voilà plusieurs éléments. Est-ce que vous êtes sans cesse dans l'Esprit Saint? Est-ce que vous êtes sans cesse dans la joie? Est-ce que vous êtes sans cesse dans l'action de grâce? Ben, peut-être que si on est sans cesse dans la prière, ça nous aidera à être sans cesse dans les autres. Vous voyez? Et peut-être que du coup, on se dira, bah, faut peut-être que je demande le don de l'Esprit Saint. Le don de prophétie aussi, d'ailleurs. C'est étonnant, hein, Paul nous dit, ne dépréciez pas le don de prophétie. Vous savez, les charismatiques, là, hein, vous connaissez plus ou moins, là. Vous en avez peut-être toujours autour de vous. Et bien, le Seigneur dit, ne dépréciez pas le don de prophétie. On dit, non mais mon Père, ça c'est trop bizarre. Ben oui, mais Paul nous dit qu'il ne faut pas le déprécier, donc ne le dépréciez pas. En ayez un grand regard, une grande estime, et puis même désirez-le. Peut-être que vous pourriez faire ça dans votre prière. Seigneur, je te prie mon petit-fils, et puis je te prie aussi pour que tu nous donnes le don de prophétie. Je dis « nous » pour pas dire « je me donne », que tu me donnes, pas pour mon orgueil, mais parce que tu dis qu'il faut qu'on prophétise, quoi. Donne-nous le don de prophétie. Bon, je ne déploie pas. Donc, voyez plus large, encore une fois. Alors, comment on va prier sans cesse? Comme je vous le disais tout à l'heure, on a un corps, donc il y a plusieurs manières de prier sans cesse. Mais notre vie de prière ne se réduit pas à notre temps de prière. Ah bah Seigneur, moi ça y est, je suis content, j'ai réussi à mettre mon heure de prière. Tous les jours, je prie une heure, de 8h à 9h. Puis du coup, après, je peux reprendre ma vie de païen. C'est extraordinaire. Parce que comme j'ai bien fait mon heure de prière, bah voilà, je suis en règle. Je suis en règle avec le bon Dieu, donc c'est bon. Maintenant, là, après, j'écoute la radio toute la journée, je fais je sais pas quoi. Enfin, bref. Comment je vais réussir? En fait, l'enjeu de la vie de prière, c'est de pouvoir la demeurer dans la journée. Comment on va la demeurer? Et comme je vous le disais, eh bien, il y a des paroles qui sont compliquées. On ne peut pas parler tout le temps. On ne peut pas, donc il y a une manière d'être, on ne peut pas inventer des nouvelles choses tout le temps non plus. Et donc, il y a cette prière du cœur qui nous aide à prier sans cesse. Qui vous aide à prier sur votre vélo, qui vous aide à prier dans votre champ, en même temps que vous tournez la terre, en même temps que vous plantez les tomates. Parce que je ne sais pas si c'est encore la saison, mais c'est déjà la saison. D'ailleurs, vous me ferez une liste un peu de ce qu'il faut planter maintenant, parce que le soleil commence à arriver, j'aimerais savoir ce que je dois planter, moi. Comme je ne suis pas vraiment très bon là-dedans. C'est l'époque de semer. Et ben voilà, en même temps que je sème, comment je vis ce temps-là, en même temps en présence du Seigneur. Et réussir à mettre ça dans le très concret. Alors, il y a des métiers qui permettent plus que d'autres d'entrer dans ce chemin. Hein. En même temps, je vous invite à choisir, hein, dans la mesure où vous le pouvez, des lieux qui vous permettent de vivre cette prière sans cesse. Comme on est ici, pas loin de la RCEA, on a la joie d'avoir beaucoup de camionneurs qu'on croise tous les jours. Je me dis, les camionneurs, ils passent leur vie dans leur camion. Et je me suis dit, en fait, c'est un ermitage, leur truc. Ils ont un paysage qui défile devant eux tout le temps. Ils sont tout seuls dans leur camion. En plus, maintenant, je crois qu'ils n'ont pas trop le droit de prendre en stop, donc c'est encore plus. Ben, est-ce qu'ils sont dans leur ermitage à faire leur prière du cœur tout au long de la journée? Et des fois, il y a des paroles assez sympas écrites sur les camions. Hein. il y a des paroles de Jésus, je sais pas quoi. Alors, les plus beaux camions que j'ai vus avec les paroles de Jésus, c'était en Haïti, hein, ça c'est Port-au-Prince, là, il y a Jésus Sauveur, tout ça. C'est pas écrit aussi explicitement, mais des fois on voit des croix lumineuses sur les camions. Voilà, c'est beau, hein. Et donc comment est-ce que... Je me dis, ben voilà, un lieu où au fond, je suis assez seul dans mon travail, et au fond je peux vivre ce cœur avec le Seigneur. Je suis pas pris dans le bruit ambiant et tout ça. Donc la prière du cœur. Alors, je voudrais vous lire, maintenant, on va rentrer un peu dans le contenu, comment on fait cette prière du cœur, parce que ce serait quand même bien. Et je vais vous lire cet extrait du récit du pèlerin russe. Donc le pèlerin russe, c'est un petit bonhomme qui marche sur les routes, et qui va à la rencontre des chrétiens qui... Voilà, il dit comment... Un jour, il rencontre un moine, comment tu fais pour vivre telle chose? Comment tu fais pour vivre telle chose? Et puis un jour, il dit, tiens, la prière du cœur, il faut quand même que je m'y mette, la philokalie. Je recommençais à lire la philokalie sur l'ordre indiqué. Donc c'est un livre des Pères d'Orient. Je lus une fois, plus encore une autre, puis encore une autre, c'est intéressant. J'ai lu une fois ce livre-là, allez, on passe au suivant. Qu'est-ce que je vais retenir de ce premier livre que je lis? Je l'ai lu une fois et je vais le relire. Parce que là, il y avait des petits trucs, là, ça va le coup que je relise pour nourrir mon cœur. J'ai lu une fois la petite Thérèse, maintenant j'ai fait la grande Thérèse, maintenant je fais Mère Teresa, maintenant je fais... Qu'est-ce que t'as retenu de la petite Thérèse? J'ai retenu ces cinq paroles-là. Je les ai même écrites dans mon petit carnet pour ne pas oublier ces cinq paroles-là. Pour que de temps en temps, dans ma prière, comme je, pour ne pas rabâcher, je relis les petites paroles de la petite Thérèse et je me dis, tiens, ah là, c'est pas mal ça. Par exemple, je vais vous lire une qui me marque en ce moment. C'est du Père Jérôme, mais bon, ouais. Ça pourra vous servir. Il dit ça pour les jeunes moines, à, par rapport aux anciens. Alors, comme il est moine, il parle du prologue, mais moi, je vais déployer avec l'Évangile. L'évangile n'aura de valeur immédiate et persuasive que dans la mesure où le témoignage des anciens de la communauté viendra l'appuyer. Donc l'évangile aura de crédibilité par rapport à tous les enfants qui vont se confesser, dans la mesure où le témoignage des anciens viendra l'appuyer. Ben, attendez, vous demandez aux enfants de se confesser, mais vous les adultes, vous ne vous confessez pas? Pourquoi ils vont se confesser? Aucun intérêt. Eh bien, c'est parce qu'ils voient les anciens se confesser qu'ils vont dire c'est crédible de se confesser. Et vous appliquez. C'est parce qu'ils voient les anciens prier qu'ils vont voir. De même qu'il appelle aujourd'hui le novice ou le jeune, le Seigneur nous a appelés jadis. Nous les anciens, il nous a conduits et nous devons maintenant connaître la signification de l'aventure. Nous devons savoir ce que vaut cette vie avec Dieu. Nous connaissons ou devrions connaître le pays, le parcours, le compagnon divin, la qualité de l'aide qu'il nous donne. Par notre ancienneté, nous devenons les garants de l'invitation divine adressée à des hommes plus jeunes. Notre témoignage exprimé soit par nos confidences, soit par notre simple comportement, je ne sais pas me relire, vous voyez, il faut non seulement écrire ce que vous avez lu, mais il faut savoir relire ce que vous avez écrit. Ah, vraiment, là, aura du poids, je pense, mais... Soit par notre simple comportement, aura du poids, quel sera ce témoignage? Très intéressant, parce qu'en fait, pour nous qui sommes anciens, vous voyez, par exemple, il y a des jeunes de l'école. Bah, ils décident de donner un an de leur vie à Paris de Monial. Bah, ils ont besoin d'anciens autour d'eux qui leur disent, bah, en fait, tu vois, tu donnes un an, mais ça vaut le coup. Moi, j'ai fait l'école il y a 30 ans, et aujourd'hui, j'ai la joie d'être missionnaire. C'est extraordinaire. C'est une aventure super. Et donc, en vous voyant vivre, ils vont se dire « Ah, mais waouh !» J'ai déjà donné ce témoignage lors du précédent Paradise, mais quand j'étais en paroisse, eh bien, quand j'avais mes adolescents en face des personnes de la maison de retraite qui venaient en fauteuil roulant faire 300 mètres, enveloppés dans les couvertures, pour avoir la messe le dimanche, les jeunes étaient là en se disant « Mais qu'est-ce qu'elle vient encore à la messe à son âge ?» Eh bien, ils se disaient « C'est a priori, c'est que ça va être important, quand même, parce que si elle se déplace alors qu'elle n'arrive même pas à marcher, et avec sa couverture, parce qu'elle est complètement frigorifiée, c'est qu'a priori, il y a quelque chose qui se passe. Vous voyez, le témoignage des anciens va assurer. Donc, quand on va en famille se confesser, ben, les grands-parents, vous allez les premiers vous confesser avec vos petits-enfants. Et vous commencez. C'est pas « vas-y, j'irai après ». J'y vais, t'as vu, c'est bien passé, je suis vivant. Vas-y, t'as vu, mamie, elle a plus grand sourire après qu'avant. Ça vaut le coup. Et c'est ça, vous voyez, notre témoignage. Voilà. Donc, on était au Pèlerin russe, faut pas que j'oublie, parce que c'est là que je suis en train de lire. Donc là, il parle sur les lectures. Donc, j'ai un peu fait une digression, mais je trouve que c'est important ce point sur la lecture. Je découvris clairement le sens de la prière intérieure. Alors, pardon. Je lus une fois, puis encore une autre, et cette lecture enflamma mon zèle et mon désir d'éprouver en action tout ce que j'avais lu. Je découvris clairement le sens de la prière intérieure, les moyens d'y parvenir et ses effets. Je compris comment elle réjouit l'âme et le cœur et comment on peut distinguer si ce bonheur vient de Dieu, de la nature ou de l'illusion. Je cherchais avant tout à découvrir le lieu du cœur, selon l'enseignement de Saint Siméon, le nouveau théologien. Ayant fermé les yeux, je dirigeais mon regard vers le cœur. Donc on va faire un exercice pratique. Vous écoutez, vous faites pareil. Alors, si vous êtes assis, ça marche mieux. Mais vous pouvez rester debout, vous êtes comme vous voulez. Venez comme vous êtes. Ayant fermé les yeux, je dirigeais mon regard vers le cœur, essayant de me le représenter tel qu'il est dans la partie gauche de la poitrine et écoutant soigneusement son battement. Si vous ouvrez les yeux, ça ne marchera pas. Fermez vos yeux. Ah, ça prend du temps, hein, ça va pas, on ne va pas réussir à le faire en 5 minutes. Et vous cherchez votre cœur, là, il est où, là? Essayez d'écouter les battements de son cœur. On n'est pas en train de faire un exercice de zen, hein, c'est un exocato. Hein. Chut, si vous parlez, ça ne marchera pas. Les autres, vous distrayez les autres. Je pratiquais cet exercice d'abord pendant une demi-heure, plusieurs fois par jour. Au début, je ne voyais rien que ténèbres. Qui est-ce qui confirme là, dans les 30 secondes qu'on a fait? Ben, si lui, en plusieurs fois une demi-heure, il n'avait que ténèbres, ben, vous voyez, c'est intéressant. Pendant plusieurs fois, je ne voyais que ténèbres. Ça ne sert à rien cet exercice, le père, vraiment. Et bientôt, mon cœur apparut et je sentis son mouvement profond. Puis je parviens à introduire dans mon cœur la prière de Jésus et à l'en faire sortir au rythme de la respiration, selon l'enseignement de Saint Grégoire le Sinaïte et de Calliste et Ignace. Pour cela, en regardant par l'esprit dans mon cœur, j'inspirais l'air et je gardais dans ma poitrine en disant « Seigneur Jésus-Christ ». On va le faire violemment. Hein. Respirez à voix haute, avec, comme dirait le docteur. Respirez. Seigneur Jésus-Christ. Et je l'expirais en disant, ayez pitié de moi. Je m'exerçais d'abord pendant une heure ou deux, puis je m'appliquais de plus en plus fréquemment à cette occupation. Et à la fin, j'y passais presque tout le jour. Lorsque je me sentis alourdi, fatigué ou inquiet, je lisais immédiatement dans la Filioque les passages qui traitent de l'activité du cœur et le désir et le zèle pour la prière renaissaient en moi. Au bout de 3 semaines, je ressentis une douleur au cœur, puis une tiédeur agréable et un sentiment de consolation et de paix. Cela me donna plus de force pour m'exercer à la prière, à laquelle s'attachaient toutes mes pensées, et je commençais à sentir une grande joie. À partir de ce moment, j'éprouvais de temps à autre diverses sensations nouvelles dans le cœur et dans l'esprit. Parfois, il y avait comme un bouillonnement dans mon cœur et une légèreté, une liberté, une joie si grande que j'en étais transformé et je me sentais en extase. Monsieur le curé, préparez les extases, donc faites attention que les gens ne se cognent pas au plafond. Hein. Parfois, je sentais un amour ardent pour Jésus-Christ et pour toute la création divine. Parfois, mes larmes coulaient d'elles-mêmes par reconnaissance pour le Seigneur qui avait eu pitié de moi, pécheur endurci. Parfois, mon esprit borné s'illuminait tellement que je comprenais clairement ce que jadis je n'aurais même pas pu concevoir. Parfois la douce chaleur de mon cœur se répandait de tout mon être et je sentais avec émotion la présence innombrable du Seigneur. Parfois je ressentais une joie puissante et profonde à l'invocation du nom de Jésus-Christ et je comprenais ce que signifie sa parole « Le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous ». Au milieu de ces consolations bienfaisantes, je remarquais que les effets de la prière du cœur apparaissent sous 3 formes, dans l'esprit, dans le sens, dans les sens et dans l'intelligence. Dans l'esprit, par exemple, la douceur de l'amour de Dieu, le calme intérieur, le ravissement de l'esprit, la pureté des pensées, la splendeur de l'idée de Dieu. Dans les sens, l'agréable chaleur du cœur, la plénitude de douceur dans les membres, le bouillonnement de la joie dans le cœur, la légèreté, la vigueur de la vie, l'insensibilité aux maladies ou aux peines. Ça me fait marrer, c'est parce que hier, on discutait avec un frère qui disait, si après 50 ans, quand vous vous levez, vous n'avez pas mal quelque part, c'est que vous êtes mort. Alors là, quand j'entends ça, je me dis, tiens, légèreté, ouh, super programme, légèreté au réveil pour les quinquas et les plus. Bon, vous voyez, moi, je c'est un novice qui vous parle, hein. Je n'ai pas une grande expérience, mais et d'ailleurs, je lis mes pères, hein. C'est pas moi. Dans l'intelligence, l'illumination de la raison, la compréhension de l'écriture sainte, la connaissance du langage de la création, le détachement des vains soucis, la conscience de la douceur et de la vie intérieure, la certitude de la proximité de Dieu et de son amour pour nous. Après 5 mois solitaires dans ces travaux et dans ce bonheur, je m'habituais si bien à la prière du cœur que je la pratiquais sans cesse et qu'à la fin je sentais qu'elle se faisait d'elle-même sans aucune activité de ma part. Elle jaillissait dans mon esprit et dans mon cœur, non seulement en état de veille, mais même pendant le sommeil, et ne s'interrompait plus une seconde. Mon âme remerciait le Seigneur et mon cœur exultait d'une joie incessante. Donc ça, c'est récit du pèlerin russe, mais derrière ce texte-là, au fond, c'est toute la tradition de l'Orient. Vous voyez, cette prière du cœur. Dans le temps d'aujourd'hui, je voulais vraiment vous donner ces points de base pour comment vivre au quotidien cette vie de prière. Vous voyez, mais cette prière du cœur, elle est toute simple. Alors effectivement, moi, je n'y suis pas encore arrivé à ce truc-là. Hein. Donc, on arrivera de temps en temps. C'est pour ça que j'ai souvent un chapelet dans la main. Ça peut vous aider. Alors, on va prendre Jésus, par exemple. Ou je vais prendre une autre prière du cœur qui va reprendre le souffle. Donc, c'est comme je voulais dire tout à l'heure, on n'est pas dans le bouddhisme et tout ça, parce qu'on est dans l'incarnation. L'objectif, c'est d'habiter notre corps, ce n'est pas de le quitter. Et donc, on utilise ce que nous faisons, le souffle, par exemple. Alors, vous pouvez dire, en expirant, vous pouvez dire... Non, on va commencer par inspirer. Jésus. Alors non, on commence par expirer, pardon. Père. Mais vous dites, vous n'êtes pas obligé de dire Père. En même temps que vous soufflez, vous dites Père dans votre cœur. Père. Jésus. Et vous bloquez Esprit Saint. Jésus nous remet l'Esprit Saint. Et en même temps, moi quand je dis ça, ça nourrit ma prière, l'intelligence, parce que à un moment quand je dis Père, je repense à Jésus qui dit Père entre tes mains, je remets mon esprit. Père entre tes mains. Jésus qui est source de vie et l'Esprit Saint qui est ce souffle même. Et au fond, je me remets en présence de Dieu tout simplement. Et ça, vous pouvez le faire au milieu de votre réunion qui commence à vous gonfler. Personne n'entend rien, vous respirez, vous ne faites pas... Ah, il est en train de faire la prière du cœur. Mais ça vous aide à vous mettre en présence de Dieu, vous voyez. Et vous êtes dans ce prier sans cesse à travers des choses toutes simples. Alors, il y a plusieurs prières. Il y a le Jésus, fils de Dieu, prends pitié de moi, pécheur. C'est une très belle prière parce que ce n'est pas seulement une prière qui nous ramène sur notre péché, vous voyez. Ah oui, sur notre passé. Ah, je suis un pécheur, Seigneur, prends pitié de moi, je suis un pécheur. C'est aussi une prière sur l'avenir. En fait, Seigneur, je sais très bien que je suis un pécheur. Prends pitié de moi parce que je pourrais faire des bêtises. Prends pitié de moi, Seigneur. Et puis, c'est l'attitude juste. Vous voyez, on a besoin d'être sauvé, c'est ce qu'on a vécu la semaine dernière. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi dans ma vie. Donc, Jésus, prends pitié de moi, pécheur. Donc, soit vous avez un long souffle, vous prenez la prière complète. Moi, je ne respire plus, hein, parce que quand on marche et je veux dire la prière du cœur, j'étouffe complètement, il y a trop de textes. Et donc, je simplifie. Jésus, prends pitié de moi, pécheur. Comme je vous disais tout à l'heure, je reprends, par sa douloureuse passion, prends pitié de moi et du monde entier. Alors c'est très beau, vous pouvez prendre le temps de contempler ça. Hein. Là, vous parlez au Père. Par sa douloureuse passion, vous parlez de la passion de Jésus. Là, vous avez un bon visage de la passion et de la résurrection. Parce que c'est, vous voyez, en fait, la passion, c'est le corps lui-même, mais le fait que ce soit imprimé sur ce tissu, c'est le signe de la résurrection. On n'a jamais réussi à faire quelque chose comme ça. Alors, on sait bien qu'on ne sait pas si c'est vraiment Jésus, et voilà. Mais c'est une belle icône de ce que Jésus a pu vivre. En tout cas, personne ne sait comprendre ce texte. Mais donc, par sa passion, on n'est pas centré sur nous-mêmes, je suis centré sur la passion. Prends pitié de moi et du monde entier, c'est humble. Vous n'êtes pas seulement en train de faire une intercession pour le monde. Vous faites une intercession en disant, vous êtes solidaire du monde, comme dit Thérèse, je mange à la table des pécheurs. Et c'est, dans notre vie quotidienne, on fait l'expérience de nos propres pauvretés. Hein. On ne peut pas se dire, bah, nous les chrétiens, on est quand même meilleurs que les autres. Eh bien, vous voyez, on est solidaire des pécheurs. D'ailleurs, certaines fois, dans certains lieux, c'est bizarre, vous avez des combats qui sont liés à ce que vous portez. Dans les missions que vous avez et tout. Donc, prends pitié de moi et du monde entier. Et là, on a cet élargissement, vous voyez. Quand j'ai dit élargissez les piquets de votre temple, là, il y a tout le monde. Hein, donc, c'est compliqué. Jésus, j'ai confiance en toi. C'est une autre prière, celle-là. Quand on faisait la marche dans le désert, on invitait les jeunes à dire cette prière toute la journée. Alors au début, on y va, Jésus, j'ai confiance en toi, Jésus, j'ai confiance en toi, Jésus, j'ai confiance en toi. Puis certains, au bout d'une demi-journée, ils disent, en fait, Jésus, je crois que j'ai pas confiance en toi, en fait. Puis à la fin de la journée, ils disaient, bah, Seigneur, s'il y a un truc que je suis sûr, c'est que j'ai vraiment pas confiance en toi. Vous voyez, et en fait, je dis cette parole et je prends conscience, en fait, de ma limite. Et pas à pas, je vais redire cette parole en rentrant dans une véritable confiance. Je me dépouille, je me mets en vérité face à Dieu. Je me mets à nu d'une certaine manière en disant, bah, voilà, en fait, Seigneur, j'ai pas confiance. Quoi. Et Seigneur, maintenant, ce sera plus... Au début, à un moment, c'est, Seigneur, apprends-moi à te faire confiance. Puis après, on arrivera à redire, Seigneur, j'ai confiance en toi. Donc, j'ai parlé du nom de Jésus. Hein. Jésus, ça peut être simplement Jésus. Murmurer le nom de Jésus. Père, Jésus, Esprit Saint, je vous l'ai fait. Et maintenant, une autre manière, c'est une parole de l'Écriture. En ce moment, il y a une parole de l'Écriture qui vous touche. Peut-être qu'aujourd'hui, ce sera mon Seigneur et mon Dieu. Comme Thomas, vous voulez dire Seigneur, mon Seigneur et mon Dieu. Ça peut être comme Marie, qu'il me soit fait selon ta parole. Et c'est ça que vous allez rabâcher. C'est ça que vous allez reprendre dans votre prière, qui va vous tourner votre regard vers Jésus. Et une autre, et là c'est plutôt, je prends des paroles qui me tournent vers Jésus. Mais je vais vous proposer une autre prière du cœur, qui sont des paroles de Jésus lui-même, que vous faites vôtres. Par exemple, j'ai soif. Ah ben là, j'ai soif, mon père. En plus, on crève de chaud, là. Ouvrez les portes, d'ailleurs, vous devriez ouvrir les portes. Hein. Eh bien, j'ai soif. Et en fait, je rentre dans ce j'ai soif de Jésus. J'ai soif. Et j'entends Jésus en moi qui dit j'ai soif. Et je commence à me laisser habiter par cette soif de Jésus. Vous voyez ? Et là, je rentre un peu, je regarde un peu ce qu'il y a autour. Et j'ouvre les yeux et dis, ben, en fait, oui, il a soif. Comment je vais combler cette soif ? Je me laisse habiter même des paroles du Christ. Donne-moi à boire. Si tu savais le don de Dieu. C'est Jésus lui-même qui vient parler, qui vient déposer cette parole dans mon cœur. Ou encore, pour aujourd'hui, Alléluia, comme je vous disais tout à l'heure. C'est pas mal, on n'est pas trop mal. Alors, parole du cœur et miséricorde maintenant. Donc la parole, elle travaille cette union à Dieu, hein, ce cœur à cœur, et puis aussi cette parole de miséricorde. Derrière ça, c'est notre appel à intercéder. Je l'évoquais tout à l'heure pour la messe, mais ça vaut aussi à ce moment-là. Quand je dis « Par sa douloureuse passion, prends pitié de nous et du monde entier », je rentre dans ce chemin, que j'aime bien dire, qui commence avec Marguerite Marie quand Jésus lui demande de faire leur sainte, hein, en disant « Intercède pour les pécheurs, demande miséricorde pour les pécheurs », donc il demande à Marguerite Marie d'intercéder pour les pécheurs, au XVIIe siècle, et Faustine au XXe siècle, il continue de lui dire « Prie le chapelet de la miséricorde » et dit « Par sa douloureuse passion, prends pitié de moi et du monde entier ». Donc Jésus vous dit à chacun d'entre vous, les amis, hey, on y va, priez avec moi le Père. Pour moi, prêtre, ça, je le vis très particulièrement dans les offices. Vous voyez, les offices, comme la messe d'ailleurs, est tournée vers le Père. Et d'une certaine manière, on est avec Jésus, tourné vers le Père, et on prie le Père. Et on intercède avec le Père. Jésus, il est venu, il s'est offert pour le Père. Il a donné sa vie pour le Père et pour les hommes. Mais il intercède près du Père. Et nous sommes invités à intercéder auprès du Père aussi. Et donc, Seigneur, moi, aussi simple et faible que je suis, tu m'invites à intercéder. Hier, quand j'étais à Rome, j'avais une image. Je voyais, enfin, il y avait un temps de prière des frères. Tous les frères priaient, là, par groupe, les uns pour les autres. Et donc, il y a vraiment des grâces de l'Esprit-Saint qui sont données. Et j'avais l'image dans mon cœur d'une vieille sœur dans sa maison, dans sa chambre, en train de prier, dans le secret. Et je me dis que s'il y a un don qui est donné là à tous ces prêtres pour qu'ils soient renouvelés, c'est peut-être parce qu'il y a une vieille sœur dans sa chambre qui est en train de prier et qui se dit « Oh là là, j'ai mal partout. » On m'a raconté une blague, c'est pas mal celle-là. Il y a le groupe des Tamalous. Vous connaissez ce groupe-là ? Ah mais vous connaissez, mais moi je ne connaissais pas moi ça. Il y a les groupes des Tamalous et puis après il y a le groupe suivant, il y a le groupe des Tapamalous. Parce qu'il y a des moments où on a mal tellement partout qu'on cherche le lieu, on a pas mal. T'as pas mal où aujourd'hui ? Ah ben aujourd'hui, il y a mon œil droit qui va à peu près bien. Le reste, Voilà, donc les groupes de Tamalou. Et donc, vous voyez, donc ça me marquait parce que je me dis, cette sœur, au fond de sa chambre, toute seule peut-être, hein, qui a l'impression d'être abandonnée de tout le monde et qui reste fidèle dans le secret de sa chambre à prier le Père, qui enfonce son ermitage, eh bien, et qui n'a pas une grande conscience que ce qu'elle fait, ça porte du fruit, eh bien, ça a une répercussion pour d'autres qui sont en train de, qui doivent être sur le terrain, qui doivent être en mission, qui doivent tout ça. Et vous voyez, cette fidélité-là. Donc, cette prière d'intercession. Et Dieu nous appelle tous à rentrer dans ce chemin d'intercession. On n'a pas une grande conscience, c'est pour ça que je me suis permis de déployer ça aujourd'hui, ce thème-là aujourd'hui. Donc, vous voyez, Marguerite Marie, je l'ai souvent fait, donc je ne vais pas le reprendre longuement ici, mais on retrouve avec la petite Thérèse, je rentre au Carmel pour prier pour les pécheurs et pour prier pour les prêtres, hein, et pour sauver les âmes. Les enfants de Fatima, qui rentrent dans ce chemin de l'intercession, de ce qu'on appelle la réparation. Au fond, tout ça, ça trouve son sens. Dans un texte de la Bible et dans un texte du Concile Vatican II. Le texte de la Bible, c'est, ça ne va pas vous plaire, mais c'est pareil, c'est le troisième texte que je vous donne aujourd'hui, Colossiens 1, 25. Je complète en ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ. Voilà. Pardon, c'est 1, 24. En ce moment, je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous et je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ. Alors, c'est un texte qui est toujours un peu compliqué, donc vous avez remarqué que je fais exprès de prendre des textes que vous n'aimez pas pour essayer de les comprendre. Ce n'est pas pour vous dire le Père Benoît veut nous remettre un coup sur la souffrance, c'est dire, ça veut dire quoi ce texte-là? Il est insupportable. Et je complète ce qui manque en ma chair, ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps qui est l'Église. Donc ce n'est pas la joie de souffrir pour souffrir. Hein. Mais si vous imaginez Saint Paul, si vous regardez la vie de Saint Paul, en fait Saint Paul il est parti en mission et... Ben dans la mission, il complète en sa chair, parce que déjà, il fait chaud, il a soif lui aussi, il a faim, c'est compliqué, il n'est pas toujours reconnu, il n'est pas accueilli, et donc, ce n'est pas qu'il se chope des souffrances en plus. C'est que l'annonce de l'évangile est compliquée, et c'est une source de souffrance. Il dit, ben ça complète les souffrances du Christ. Vous voyez, on n'est pas dans une recherche du culte de la souffrance, mais ça n'a rien à voir avec ça. Alors, ensuite, il dit, car il explique en fait, et c'est ça qui est intéressant encore une fois, c'est de voir la suite du texte. Car je suis devenu ministre de l'Église en vertu de la charge que Dieu m'a confiée de réaliser chez vous l'avènement de la parole de Dieu. L'enjeu, en fait, c'est que la parole règne dans les cœurs, pour Paul. Et si pour ça, il faut que je me fatigue un peu, ça vaut le coup. Si pour ça, je ne dois pas être reconnu de certains, ça vaut le coup. L'enjeu, c'est que la parole de Dieu règne. Ce mystère a été maintenant révélé. Il vient d'être manifesté à ses saints. Ses saints, c'est vous. Tous, là, il a été révélé à ses saints. Dieu a bien voulu leur faire connaître de quelle gloire est riche ce mystère chez les païens. Vous aussi, hein, vous êtes chez les païens. Hein. Tous comme ça, on est au cœur du monde. Et ce mystère, c'est quoi? C'est le Christ parmi vous. C'est le Christ parmi vous. Vous pouvez écrire ça sur vos petits papiers, s'il vous plaît, madame. C'est le Christ parmi vous. L'enjeu de la souffrance du Christ, de la souffrance de Paul, de son déploiement, de sa mission, c'est que vous preniez conscience que le Christ est parmi vous. Et c'est l'espérance de la gloire. Jésus est parmi vous, dans votre vie quotidienne. C'est pour ça que Paul s'est fatigué. Alors s'il vous plaît, honorons Paul qui s'est fatigué, c'est peut-être pour ça aussi que votre curé se fatigue d'ailleurs, et j'espère que c'est pour ça que vous vous fatiguez aussi un peu. Ce Christ, nous l'annonçons, avertissant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de rendre tout homme parfait dans le Christ, et c'est bien pour cette cause que je me fatigue à lutter avec son énergie qui agit en moi avec puissance. Donc il part de « je souffre et je complète en ma chair » et il finit par « le Seigneur me donne son énergie pour le faire ». Et au centre, c'est quoi l'enjeu? C'est que le Christ soit parmi vous, que Dieu habite parmi vous. Et ça, ça mérite bien que je me fatigue un peu. Vous voyez, les hommes, en fait, ils cherchent le bon Dieu. Vous avez vu le nombre de personnes qui disent « on ne croit pas en Dieu », le bon Dieu, ça ne sert plus à rien. Et à côté de ça, on va avoir des voyants, des magnétiseurs, des guérisseurs, des tout ça. Attends, si tu ne crois pas en Dieu, pourquoi tu vas avoir un guérisseur? Ça ne marche pas. Sois rationnel. Donc en fait, tout ça, c'est dans un gros mélange. Et donc c'est à nous de leur montrer que Dieu est parmi nous. Oui. Et c'est une œuvre de miséricorde, ça. C'est notre œuvre de miséricorde. Donc l'œuvre de miséricorde qu'on a vécue en ces jours, c'est de l'accueillir d'abord profondément dans notre vie, mais aussi de pouvoir en témoigner. Donc vous avez bien compris que ce n'est pas d'abord une question du culte de la souffrance, mais ce chemin de la réparation, de ces petites offrandes que nous faisons, c'est notamment dans la vie spirituelle et dans la prière, c'est pour nous aider pour soutenir nos frères dans cette prise de conscience de cette présence de Dieu. Et c'est ce qu'on va vivre, voir aujourd'hui dans l'Évangile. En ce dimanche de la miséricorde, contrairement à la semaine dernière où nous n'avions aucune apparition, on voit Dieu qui se rend présent au milieu de son peuple, au milieu de ses apôtres, puis au milieu de Thomas. Et en fait, on porte ça. Et on a le désir que Thomas puisse vraiment rencontrer le Seigneur. Et tu viens au milieu de nous, et pas à pas, on espère que tu vas découvrir que dans les plaies de Jésus, vient ton salut. Je termine, pour que vous puissiez avoir une petite pause. Eh bien, ce que je voulais terminer, c'est ce que je vous ai déjà dit sur la description de ce « Par sa douloureuse passion, prend pitié de nous et du monde entier ». Alors, dans le Concile Vatican II, je vais terminer par ça, eh bien, avec ce texte de Colossiens 1, le Concile Vatican II a insisté sur plusieurs aspects, et notamment sur la vocation des laïcs, donc c'est-à-dire de chacun de vous, et il a insisté sur le sacerdoce commun. Par le baptême, vous êtes prêtres, prophètes et rois. À travers tout ce que je vous ai dit, au fond, j'ai voulu déployer le fait que vous étiez des prêtres. Oui, mesdames, vous êtes toutes des prêtres. Et donc, comme prêtre, vous avez vocation à intercéder. Vous avez vocation à intercéder pour les hommes auprès de Dieu. Par sa douloureuse passion, prend pitié de nous et du monde entier. Et comme prêtre, vous avez vocation à donner Dieu aux hommes. Voilà. Et donc, je vous invite à vivre ces deux mouvements. Et que ce soit dans le secret de votre chambre, ou dans votre église, par les psaumes, par la messe, par la prière du cœur, de vivre cette union à Dieu, d'en être les témoins, comme les anciens, pour que des jeunes désirent suivre le Seigneur de tout leur cœur, voir la crédibilité de ce témoignage, et qu'ils puissent eux-mêmes ainsi faire l'expérience de la miséricorde de Dieu. Je vous remercie.